Vous écoutez, on lit pour vous.
La tentation totalitaire, un enjeu politique mondial. Un texte de Jean Baillargeon, paru le 1er juillet 2024 dans le Droit d'Ottawa-Gatineau. Nous dirigeons-nous vers des tendances politiques plus totalitaires, que ce soit en Europe, aux États-Unis et même au Canada? La polarisation entre partis politiques qualifiés d'extrême droite ou d'extrême gauche aux prochaines élections en France entraînera-t-elle l'Europe vers le chaos? Chez nos voisins américains, nous verrons bientôt l'impact du débat entre les deux candidats à la présidence américaine où des ultra-conservateurs isolationnistes et religieux affronteront les défenseurs de la démocratie et des droits de la personne. Comment y voir clair entre toutes ces options qui s'offrent aux électeurs et quel sera son impact sur l'élection canadienne en 2025? La montée du mécontentement. L'opinion publique est de plus en plus polarisée, car les politiques publiques, économiques et sociales n'arrivent plus à créer de l'espoir et un équilibre entre l'insécurité et les inégalités. Trop d'immigrants, diront certains, manque de main-d'œuvre qualifiée, vieillissement de la population, inflation et augmentation du coût de la vie, inaccessibilité au logement et à la propriété, diront d'autres, tout semble hors de contrôle. Enfin, l'usure de la classe politique au pouvoir et l'absence de relève compétente nous amènent à craindre souvent le pire dans cette mouvance irréversible d'un besoin de changement, notamment aux États-Unis, où les deux candidats à la présidence n'inspirent aucune confiance pour la gouvernance de la première puissance économique et militaire mondiale. En Europe, faut-il craindre la venue au pouvoir en France du Rassemblement national, qualifié par certains analystes de parti d'extrême droite? A contrario, d'autres observateurs de la politique française qualifient le nouveau Front populaire d'extrême-gauche, regroupant autant le Parti de la France insoumise que le Parti socialiste et le Parti communiste. Ces deux clans politiques arrivent en tête dans les sondages devant celui du président Emmanuel Macron, qualifié d'extrême-centre. Ce jeu des étiquettes politiques extrêmes en France et en Europe nous sensibilise sur la puissance du mécontentement populaire qui devient l'arme politique préférée pour canaliser un désir de changement de pouvoir politique amenant la radicalisation et la polarisation des discours en présence. Au Canada, le Parti conservateur fédéral pourrait être qualifié par certains d'extrême droite parce qu'il cherche à fédérer le mécontentement anti-État interventionniste face à l'usure du pouvoir du Parti libéral qui gouverne plutôt au centre-gauche grâce à l'appui du NPD. Pendant ce temps, le Québec résiste encore au chant des sirènes conservatrices, notamment envers l'extrême droite religieuse par son désir de protéger sa culture distincte, langue, laïcité, égalité homme-femme, tout en conservant ses politiques identitaires uniques en Amérique du Nord. Serons-nous capables de résister à la tentation totalitaire qui met en péril nos acquis économiques et sociaux? Le désir de changement nous amènera-t-il à envisager la création d'un nouveau pays qui nous ressemble et nous rassemble? Les prochaines années seront décisives pour l'avenir de la nation québécoise dans ce tourbillon imprévisible de la politique mondiale. C'était La tentation totalitaire, un enjeu politique mondial, un texte de Jean Baillargeon paru le 1er juillet 2024 dans le Droit d'Ottawa-Gatineau.
Négociations ardues sur l'exploitation minière des fonds marins, un texte d'Alexandre Shields paru le 5 août 2024 dans le Devoir. L'Autorité internationale des fonds marins, AIFM, n'est pas parvenu à s'entendre sur l'idée d'un moratoire sur l'exploration et l'exploitation minière des fonds océaniques, un sujet qui divise les pays qui négocient en vue d'un traité censé encadrer cette nouvelle filière industrielle controversée et dénoncée par des scientifiques et des écologistes. L'AIFM a beau être une organisation relativement méconnue de l'ONU, elle est plus que jamais au cœur d'un débat qui prend de l'ampleur et qui oppose deux visions de l'avenir des océans, celle prônant la protection des fonds marins et celle prévoyant l'exploitation des minéraux convoités qu'on y retrouve, notamment au nom de la transition énergétique. Un nouveau chapitre vient d'ailleurs de s'écrire au cours des derniers jours à Kingston, en Jamaïque, dans le cadre de la 29e session de négociation des 168 États membres. Pour la première fois, des pays qui plaident en faveur d'une pause de précaution, voire pour un moratoire sur ce développement industriel aux impacts environnementaux inconnus, sont parvenus à inscrire à l'ordre du jour un débat sur la possibilité de mettre un frein aux projets miniers déjà en préparation. Celui-ci a été lancé par le Chili, un pays favorable à une telle pause. Mais son projet de décision lançant un dialogue vers le développement d'une politique générale sur la protection et la préservation de l'environnement marin n'a pas abouti, malgré une semaine de négociations qui s'est achevée le 2 août 2024. De nombreuses délégations, de la Chine à l'Arabie saoudite, en passant par le groupe Afrique, ont dénoncé le manque de clarté du texte et ont estimé que l'Assemblée des pays membres de l'AIFM n'était pas le lieu où prendre ce type de décision, jugeant que la responsabilité devrait revenir au Conseil, qui compte seulement 36 États. Face à cette opposition, le Chili a finalement retiré sa proposition à la toute fin de la réunion de l'Assemblée qui, par tradition, se prononce par consensus. Le pays a toutefois promis de revenir à la charge en 2025, alors que le bloc s'opposant au démarrage de l'exploitation compte désormais 32 pays, dont le Canada, la France, la Grande-Bretagne, le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne et la Suède. Le gouvernement canadien a annoncé en 2023 qu'il n'autoriserait pas l'exploitation minière dans les fonds marins de ces océans nationaux sans une structure réglementaire rigoureuse. En ce qui a trait aux eaux internationales, Ottawa soutient un moratoire sur l'exploitation minière commerciale. Mais le gouvernement Trudeau ne réclame pas un bannissement pur et simple. Opposition. Les pays réclamant une pause de précaution sont soutenus par plusieurs scientifiques spécialistes des océans et de la biodiversité, mais aussi par des groupes écologistes qui militent pour la protection de ces écosystèmes fragiles et souvent peu connus en raison de leur éloignement des côtes et de la grande profondeur des zones convoitées. La Deep Sea Conservation Coalition, qui regroupe 115 organisations, a d'ailleurs salué la progression du bloc de pays qui refuse de donner le feu vert au projet minier à la suite de l'Assemblée de l'AIFM. L'exploitation minière des fonds marins n'est ni nécessaire ni souhaitée. Il faut effectuer une transition pour sortir de cette économie linéaire et se tourner vers une économie circulaire respectueuse des limites de la planète, a résumé dans une déclaration écrite la porte-parole du Fonds mondial pour la nature, WWF, Jessica Battle. La biologiste marine Diva Hammond du BNEF Ocean Science Laboratory a pour sa part souligné le manque criant de connaissances sur les fonds marins en rappelant une étude publiée en juillet dans le réputé magazine Nature. Celle-ci fait état de la découverte d'une réaction chimique spontanée qui crée de l'oxygène dans les fonds marins, et ce, sans que la vie ne soit impliquée. Cette découverte inattendue remet en cause le consensus de longue date selon lequel il faut des organismes photosynthétiques pour produire l'oxygène dont nous avons besoin pour respirer. Et elle a été effectuée précisément dans une région de l'océan Pacifique où des entreprises veulent extraire des minéraux. Les experts de l'unité Études des écosystèmes profonds de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ont en outre déjà fait une mise en garde contre les répercussions potentielles de cette industrie. Destruction d'habitats, panache de particules, bruit, vibrations, remise en circulation de sédiments et de composés toxiques, qui pourraient voyager sur de très grandes distances, etc. Un premier projet? Le débat sur la pertinence de lancer l'humanité dans une nouvelle phase d'exploitation des ressources planétaires a beau se poursuivre, l'AIFM a déjà accordé plus d'une trentaine de contrats d'exploration valides pour 15 ans à différentes entreprises. On retrouve de ces permis dans les eaux internationales de l'océan Pacifique, de l'océan Atlantique et de l'océan Indien. Une vaste région du Pacifique située à l'ouest du Mexique suscite toutefois particulièrement la convoitise, la zone de Clarion-Clipperton. Des permis pour plus de 1,2 million de kilomètres carrés y sont actifs, détenus par 16 promoteurs différents. On retrouverait dans ces fonds marins plus de 20 milliards de tonnes de nodules polymétalliques qui comptent plus d'une dizaine d'éléments chimiques différents. Toutes ces ressources trouvées dans le fond des océans pourraient répondre à une demande industrielle croissante au cours des prochaines décennies. Elles contiennent en outre des terres rares utilisées dans le développement de plusieurs technologies, notamment pour la fabrication de nos téléphones cellulaires, de nos ordinateurs et des véhicules électriques, mais aussi pour la production d'énergie solaire et éolienne. Nauru, petit état insulaire du Pacifique, espère pour sa part lancer le bal en autorisant sous peu un premier projet industriel d'extraction en milieu marin. Il faut savoir que depuis un an, malgré l'absence de règles, n'importe quel État peut déposer une demande de contrat d'exploitation au nom d'une entreprise. Dans ce contexte, le gouvernement nauruan a profité de la rencontre de l'AIFM pour annoncer que le dossier de NORI, Nauru Ocean Resources, incorporé, filiale de l'entreprise canadienne The Metals Company, qui veut exploiter des nodules polymétalliques dans le Pacifique, est en cours de finalisation. C'était « Négociation ardue sur l'exploitation minière des fonds marins », un texte d'Alexandre Shields paru le 5 août 2024 dans Le Devoir.
Un empereur à Terre-Neuve. Un texte d'Hélène Choquette, paru le 20 juillet 2024 dans La Presse. C'est le troisième été consécutif qu'un pigargue empereur élit domicile à Terre-Neuve, à plus de 9000 kilomètres de son habitat habituel. L'impressionnant rapace originaire d'Asie est une véritable attraction touristique dans le village côtier de Trinity. À l'été 2022, Bob Bartlett, skipper et fondateur de Trinity Eco Tours, est le premier à observer l'oiseau dans la baie de Trinity. « Je n'avais jamais vu un oiseau aussi gros. J'ai publié sa photo sur les réseaux sociaux. » Sa publication, relayée sur les pages « Stellar's Sea Eagle in Canada » et « Maine and Beyond, Stellar's Sea Eagle, qui ont un peu plus de 16 000 membres sur Facebook, est devenu viral. Le téléphone ne dérougissait pas. Les gens voulaient savoir s'il était toujours là. Le premier touriste à venir pour le photographier était québécois. Il était prêt à payer cher pour que je l'emmène à lui. Je le trouvais fou de vouloir débourser une telle somme pour voir un oiseau. C'est que l'habitat du pigargue empereur s'étend normalement de l'est de la Russie au nord du Japon. À l'été 2020, l'oiseau a pour la première fois été observé en Alaska. Depuis, des milliers d'internautes suivent sa trajectoire du Texas à la Gaspésie en passant par le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Maine, le Massachusetts et Terre-Neuve. Avec son gros bec orangé et de larges épaulettes blanches sur ses ailes d'une envergure de 2,5 mètres, il se distingue facilement du pigargue à tête blanche, son cousin nord-américain. Estimant qu'il reste au plus 4760 individus, l'organisme BirdLife International lui a attribué le statut d'espèce vulnérable à la recherche de nouveaux territoires. Selon Alexander Lees, professeur en biodiversité à l'Université Manchester Metropolitan et auteur de Vagrancy in Birds, Princeton Press University 2022, la présence de ce dernier en Amérique du Nord s'expliquerait par l'habitude qu'ont les juvéniles de se disperser à la recherche de nouveaux territoires propices à l'alimentation et à la reproduction. Bien que les changements climatiques affectent la migration de certains oiseaux, Alexander Lees ne croit pas que ce soit le cas pour le pygargue empereur. Ce qui est inusité, c'est que celui-ci soit descendu jusqu'au Texas pour ensuite remonter vers la côte atlantique. Il pourrait bien être à la recherche de congénères ou de bons sites de pêche, affirme Alexander Lees. À l'été 2023, une spatule rosée a aussi été observée dans le Bas-Saint-Laurent. Comme pour le pygargue empereur, des centaines de personnes se sont rendues dans la région pour l'observer. C'est qu'il est désormais facile de suivre l'actualité aviaire sur des groupes en ligne et sur des applications de sciences collectives. Québec Oiseaux héberge la page des oiseaux rares du Québec. Son directeur général, Jean-Sébastien Guénette, rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il fallait être membre d'un club d'ornithologie pour être informé de la présence d'un oiseau rare. Si la technologie contribue à démocratiser le loisir ornithologique, les amateurs, laissés à eux-mêmes, ne connaissent pas toujours les bonnes pratiques à adopter. Plusieurs applications masquent la localisation précise de certains oiseaux rares afin d'éviter les attroupements susceptibles de les déranger. Sensibiliser les ornithologues amateurs aux bonnes pratiques, c'est l'un de nos défis, affirme Jean-Sébastien Guénette. Depuis l'arrivée du pygargue empereur dans la baie de Trinity, on vient d'aussi loin que de la Suisse et de l'Allemagne pour l'observer. À Trinity, qui compte 1650 habitants, les boutiques d'artisanat et les restaurants font de bonnes affaires. Selon une étude de l'Université Southern Illinois, publiée en 2023, entre 2115 et 2645 personnes auraient convergé vers la côte est américaine pour observer le pygargue empereur entre décembre 2021 et janvier 2022. Ces personnes auraient dépensé au total entre 584 373 $ et 731 809 $ US en incluant le coût de leur déplacement. Comme c'est le troisième été consécutif que le pygargue empereur passe dans la baie de Trinity, les spécialistes croient qu'il pourrait bien y revenir jusqu'à la fin de sa vie. Les eaux poissonneuses de Terre-Neuve et les nombreuses baies accessibles uniquement par bateau pourraient bien être un endroit idéal. En juin 2024, le rapace a été aperçu transportant des branches comme s'il voulait faire un nid. Alexander Lees croit que, seul de son espèce, il pourrait bien se reproduire avec un pygargue à tête blanche, comme ce fut le cas à Juneau en Alaska en 2004, et donner naissance à une génération de pygargues hybrides. Chose certaine, l'empereur de Terre-Neuve n'a pas fini de faire parler de lui. C'était un empereur à Terre-Neuve, un texte d'Hélène Choquette paru le 20 juillet 2024 dans la presse.
La mystérieuse boulangerie Pomme. Un texte de Marc Tison paru le 15 juillet 2024 dans la presse. Il y a des noms d'entreprises qui disent tout et d'autres qui sont plus mystérieux. La presse raconte l'origine de ces noms parfois très connus. Une tranche d'histoire. Les camions de la boulangerie Pomme, P-O-M, circulent dans les rues de ma mémoire depuis près de 60 ans. Quand j'avais 5 ou 6 ans et que j'habitais un logement dans le quartier qu'on appelait alors Nouveau-Rosemont, je voyais passer chaque matin dans ma rue un camion de livraison Pomme rectangulaire comme ces miches. Il était entièrement peint en 2 tons de vert, couleur qui m'avait d'autant plus frappée que j'avais depuis peu décrété qu'elle était ma préférée. Le logo qui ornait ses flancs avait tout pour attirer l'œil d'un enfant. 3 mitrons tenant chacun une lettre du mot « pomme », celui du centre encadré par son « O ». La couleur et le nom, j'apprenais à lire, me laissaient croire à un rapport quelconque avec les pommes, mais je n'arrivais pas à saisir exactement quelle relation ce fruit pouvait nourrir avec un pain tranché. Mes parents ont déménagé peu de temps après, en banlieue. Mais le souvenir est demeuré. Le mystère nominal aussi, d'ailleurs. Des miettes d'information. La boulangerie Pomme existe toujours. Son usine est située rue Viau, tout près du stade olympique, et par le plus grand des hasards, à une dizaine de rues du duplex de mon enfance. Son nom s'étale au sommet de l'édifice sur une longue enseigne blanche, mais en 2021, comme l'atteste Street View, elle montrait encore 2 tons de vert délavés. La boulangerie Pomme aurait été fondée il y a plus de 130 ans, nous apprend son site web, où l'information historique est aussi mince qu'une de ses tranches de pain. Notre histoire, c'est celle de 3 frères boulangers qui ont décidé de partager leur joie de vivre et leur amour du bon pain avec tous les Québécois, y précise-t-on. Pomme pour les frères Paul, Olivier et Marcel, peut-être? Pas du tout. Nous sommes très loin du compte. Il faut remonter à 1890, l'année inscrite sur ces emballages, et chercher ailleurs pour recueillir quelques miettes d'informations. Cette année-là, nous apprend Aline Goubet, dans son ouvrage « A View of Their Own »,« The Story of Westmount », Dent Harrison s'était lancé dans la production artisanale de « crumpet », une espèce de gaufre britannique, dans un petit local de Pointe-Saint-Charles. Né en Angleterre, Harrison était débarqué à Montréal l'année précédente, en 1889, promis à un emploi d'ingénieur pour la société Singer Sewing Machine. Convaincu d'un marché pour la gaufre qui avait nourri son enfance, il était retourné quelques mois dans le Yorkshire pour en apprendre la recette chez l'oncle boulanger qui l'avait élevé. De retour à Montréal, il lance la production avec un compatriote et fait lui-même la distribution avec une voiture tirée par un cheval qui préfigure les futurs camions Pomme. Au milieu des années 1910, l'entreprise prend le nom de Marvel Bakery, en témoignage peut-être de son étonnant succès. Avec l'implication des fils aînés de Dent, elle adopte la raison sociale Dent Harrison & Sons en 1922. En 1925, la famille Harrison vend sa boulangerie à la Consolidated Bakeries Limited, que l'odeur du pain cuit à cadence industrielle faisait saliver. Respectant une clause de non-concurrence de 5 ans, 2 des fils de Dent, William et Gordon, attendent 1930 avant de fonder la boulangerie Harrison Brothers. C'est alors qu'il crée la marque Pomme Bakery. Pomme pour Pride of Montreal. Et voilà! Quelque temps après, une adaptation en français apparaît. Pomme pour Pain, fierté de Montréal. Le logo orne les nouveaux camions de la boulangerie, la seule de Montréal à n'utiliser que des véhicules motorisés. Gobé puis avalé. En septembre 1967, une publicité dans la presse vante les brisures de chocolat, les minces au citron, les biscuits à la vanille, les macarons, les tartes et les gâteaux des boulangers pommes qui fabriquent 29 sortes de pains, plus de produits que n'importe quelle autre boulangerie à Montréal. Cette renommée incite la Harrison Brothers à adopter, en 1978, le nom de sa marque, la boulangerie Pomme. En 1985, la boulangerie quitte son immeuble emblématique de Westmount pour s'installer dans une vaste usine, rue Viau, face au parc olympique. Deux ans plus tard, la famille Harrison vend sa boulangerie à la société québécoise Multimarque. William Dent Harrison demeure dans l'entreprise jusqu'à sa retraite, annoncée par le Westmount Examiner dans son numéro du 7 juillet 1988. Multimarque est gobée par Canada Bread en 2001, elle-même avalée en février 2014 par la multinationale mexicaine Grupo Bimbo. Au travers de ce processus de digestion, la marque Pomme a néanmoins survécu, tout comme son usine de la rue Viau, et comme ses camions verts, dans la mémoire de certains. Boulangerie Pomme. Origine de l'entreprise, 1890. Création de la marque Pomme Bakery, vers 1930. Adoption du nom Boulangerie Pomme comme raison sociale, 1978. Ville, Westmount et Montréal. Activité, production de pain tranché et autres produits de boulangerie. Nombre d'employés, environ 200 personnes dans l'usine de la rue Viau. C'était la mystérieuse boulangerie Pomme. Un texte de Marc Tison, paru le 15 juillet 2024 dans La Presse.